Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut, salut.
De Dwayne.
Hello tout le monde.
Et de Morren.
Bonjour à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Through the Darkest of Times. On enchaînera ensuite sur Yakuza Ishin. Nous évoquerons également Dark Souls sur PC. On parlera de Valve, de la magie des mises à jour, des lootbox. Et enfin, on terminera par un grand moment d'émotion. Vous allez voir, c'est... Ah ouais, c'est magique. Et surtout, notre jeu du moment, n'oublions pas, nous sommes ici trois à avoir mis la main dessus, dont deux l'ont déjà terminé. Je veux bien sûr parler de God of War. Allez, c'est parti. On va commencer par un jeu qui vient tout juste d'être annoncé là maintenant tout de suite. En tout cas, au moment où on enregistre ce podcast. Et ce jeu, c'est Through the Darkest of Times. Qu'est-ce que c'est Through the Darkest of Times? C'est un jeu de stratégie où vous allez jouer la résistance allemande du temps de l'Allemagne nazie. Et on n'en sait pas plus sur ce jeu. En tout cas, on n'en sait pas grand-chose. Mais pourquoi je tenais à en parler? Parce que c'est un jeu qui est fait par des gens qui ont un pedigree qui, à mon goût, vaut le coup qu'on évoque ce projet, déjà. Et ce pedigree, eh ben, c'est tout simplement le lead level designer et le lead artist de Spec Ops The Line. Et là, tout de suite, quand tu me dis que c'est un jeu de stratégie fait par des gens qui ont bossé sur un jeu aussi marquant, qui avaient les balls, tu vois, de mettre le joueur face aux conséquences de ses actes dans un jeu violent. Un jeu sur l'Allemagne nazie fait par des gens comme ça, ça m'intéresse. Alors, par contre, il n'y a pas le gars qui était responsable de l'écriture sur Spec Ops The Line, mais il se revendique de cet esprit-là, visiblement. En tout cas, ils veulent aborder le sujet de l'Allemagne nazie au sérieux. Parce que, bon, vous savez, hein, les nazis dans les jeux vidéo, c'est un peu comme les nazis dans Indiana Jones. Hein, y a la licence to kill, quoi. Et en plus, si on peut mettre un méca Hitler au passage, voilà, on se fait plaisir. Mais ça serait bien que, pour une fois, on prenne les nazis un peu au sérieux. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en jeu vidéo avec ça.
Bah surtout que, comme tu l'as dit, c'est les mecs de Spec Ops The Line qui sont derrière, et quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire de Spec Ops, qui était très intéressant et qui avait un point de vue vraiment différent de ce que l'industrie nous propose, je me dis que ça peut être intéressant, même si je suis pas trop fan, tu vois, du genre de stratégie, ça m'attire quand même, parce que il y a un propos qui est différent dans le jeu vidéo qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et rien que pour ça, tu vois, moi je suis allé à l'initiative. Ça me donne envie de voir ce qu'ils vont faire, et j'espère vraiment que ils vont réussir à aller dans la profondeur d'écriture qu'avait apporté Spec Ops, justement.
Dwayne?
Bah, ce qui me fait kiffer, c'est justement ce côté, en fait, changer de thème avec justement, bah, de la stratégie et effectivement, l'Allemagne nazie. Et c'est vraiment avoir ce type d'écriture. Après, de ce que j'ai vu un peu de Battlefront 2, le mec qui était en charge du scénario est passé dessus. Et voilà, vu le scénario de Battlefront 2, je pense pas qu'il était tout seul au niveau de la direction du scénar sur Spec Ops, donc je pense que c'est plus que ce lead en termes d'écriture, c'est aussi un état d'esprit en fait, une envie d'apporter de nouvelles choses en termes d'écriture dans le jeu vidéo en tout cas. Et ouais, voir cet état d'esprit et justement ce pédigré dans de la stratégie, ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal quoi.
Mais voilà, enfin, moi, ce que je retiens, c'est vraiment, on prend les nazis au sérieux. On cherche pas à traiter sérieusement le sujet du nazisme dans le jeu vidéo en général. C'est le truc, t'arrives, tu lui mets une bastos, point, c'est réglé. Là, vu qu'on va jouer la résistance, j'imagine que ça va parler de propagande, de la montée du nazisme, etc. Donc vraiment, très très hypé. ATH?
Par rapport aux mecs qui ont fait Spec Ops, j'espère que leur gameplay sera un peu plus intéressant que Spec Ops, parce que c'était pour moi le gros défaut du jeu. Je me suis vraiment forcé à le finir. En termes de mécanique, ils avaient repris tout ce qui fonctionnait dans le TPS, mais c'était trop lambda, en fait. Qui peaufine juste un petit peu ça, et puis pour moi, ça serait juste parfait, quoi.
Ouais, il faudrait que ce soit un jeu où tu dis pas « Ok, il y a quelque chose de bien qui va se passer à un moment donné, il faut que je me force jusqu'au moment où ça va être bien. »
C'est ça.
Ce serait cool, parce que Spec Ops, c'était vraiment ça, hein. Fallait se faire violence, ouais. Hein. Au début, c'était ouf. Voilà. On va maintenant parler de la franchise Yakuza. Vous le savez, il y a un épisode parmi la foulitude d'épisodes de Yakuza qui sont sortis, qui n'est jamais paru chez nous, et cet épisode, c'est Yakuza Ishin. Yakuza Ishin, ça se passe à une époque très précise de l'histoire japonaise, et il se trouve que c'est un peu le prétexte qui a été utilisé récemment lors d'une interview par le producteur de la série, qui a dit en gros les occidentaux ils connaissent pas cette période là hein, c'est la restauration Meiji pour ceux qui connaissent, et après tout OSEF quoi. Comme les occidentaux ils connaissent pas, pourquoi on se ferait chier à faire la localisation. Bon, à un moment donné, je suis pas sûr que ce soit un bon plan de dire que les gens sont trop cons pour comprendre ton œuvre, en fait. Parce que honnêtement, je suis pas sûr que les gens soient plus familiers avec le Japon contemporain que le Japon d'ère Meiji, en vrai. Hein. Mais surtout que Yakuza, c'est une ambiance très particulière, un milieu très particulier, etc. Un quartier précis de Tokyo. Et puis moi, j'ai envie de dire, tu sais, les Occidentaux, hein, du moment que tu leur donnes un sabre pour trancher des trucs, ils sont plaises. Hein. Dwayne.
Ouais, non, mais clairement, en fait, je comprends même pas l'argument. Enfin, surtout si c'est pour juste une excuse pour pas le balancer, ok, mais c'est quelque chose que tu peux utiliser même en argument marketing. Ghost of Tsushima, le fait que ce soit une île et une histoire du Japon que je ne connaisse pas, c'était même un argument en plus. Donc voilà, c'est le même principe et ça a hypé tout le monde. Après, évidemment, pour vraiment rentrer en profondeur, ce sera à toi de faire tes recherches ensuite, mais au moins c'est une base historique et voilà. C'est un point d'entrée intéressant, donc je comprends vraiment pas le commentaire. Si c'est juste pour trouver une excuse, t'en as plein d'autres, hein. T'as les trucs de base, du budget, t'as plein d'autres excuses, quoi. Mais bon, voilà, en tout cas.
Ouais, pour moi, c'est vrai que c'est pas vraiment un argument, parce que dans ce cas-là, si on part du principe, les gens ne connaissent pas. Par exemple, nous, en Europe de l'Ouest, on connaît pas trop la mythologie scandinave. Dans ce cas-là, God of War, ça sert à rien qu'on le sorte en France, tu vois. Si on prend cet argument-là, on peut aller dans tous les sens. Et puis même, tu vois, j'ai envie de dire, Assassin's Creed, c'est un jeu vidéo, mais on va dire qu'ils prennent beaucoup de liberté sur la période historique. C'est pas vraiment très fidèle. Mais moi, comme quand il y a un truc qui m'intéresse, un monument ou quelque chose, une période historique, je me renseigne pour voir vraiment ce qui s'est passé à cette époque-là, pour voir ce que le jeu m'a proposé. Et quand tu t'intéresses à un univers, tu veux savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Donc moi, je trouve que vraiment le jeu vidéo, c'est une bonne porte d'entrée pour amener les gens à connaître cette période historique.
Bah oui.
On parlait de Ghost of Tsushima, mais Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui va être fait quand même par des Occidentaux. Ça va pas être un jeu qui va être fait par des Japonais. Donc tu peux te dire que vraiment, ça va être...
Est-ce qu'on va avoir Tom Cruise débarquer ?
Voilà, tu vois, est-ce que ça va nous faire un syndrome le dernier samouraï ou pas, tu vois ? Mais moi, je me dis que c'est bien d'avoir vraiment une influence qui vienne de partout dans le monde et d'avoir cette culture-là. Et ce serait intéressant pour le jeu vidéo, justement, qu'ils arrivent à avoir leur mot à dire là-dessus. J'espère vraiment que ce genre d'argument ne sera plus réutilisé à l'avenir, quoi.
Et nous allons maintenant parler de Bandai. Ça y est, enfin, j'ai eu la réponse à mes appels. Bandai m'a entendu. Enfin bon, ils te font quand même toujours payer un patch, hein, mais... Dwayne, il se passe quoi du côté de Dark Souls Remaster sur PC ?
Une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc d'un côté, en fait, à la base, lorsqu'ils ont annoncé Dark Souls Remastered, ils étaient un peu mystérieux sur les réductions qui seraient faites pour les joueurs qui ont déjà le jeu. Donc là, on a eu enfin l'info, c'est-à-dire que la remise sera du coup de 50%. Le petit bémol, c'est qu'on a une autre info, c'est qu'en fait, la version PC originale va être en tout cas totalement cut au profit de l'édition remastered du coup.
Donc ça veut dire que tu pourras plus l'acheter, c'est ça, sur le store?
Exactement, donc ce sera supprimé à partir du 9 mai.
Ok.
Alors j'ai une question. Combien vous allez le vendre, le nouveau jeu? Parce que si le nouveau jeu est plus cher que l'ancien, ça revient à une augmentation de prix, on est d'accord en fait. Non mais juste, je pose la question de manière candide, tout ça, mais... Je flaire l'arnaque, en fait. Mmh. Et puis, quand même, c'est bien, vous faites une réduction aux gens, etc. C'est... Ok. Bon, n'empêche que vous faites payer un patch. Hein, Non, mais voilà, tu vois, je retiens quand même que vous faites payer un patch que vous n'avez jamais sorti, en plus. C'est ça qui est fabuleux, quoi. Donc, ne faites pas les malins. C'est tout ce que je dis, ne faites pas les malins, parce qu'il n'y a pas de quoi le faire.
Hein. C'est à mon tour, là, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Si t'as quelque chose à ajouter, peut-être que tu n'as rien à ajouter.
En fait, je trouve quand même que Bandai Namco là-dessus, ils se foutent un peu de la gueule des joueurs PC parce que on sait que la version, on va dire, remaster va être vendue plus cher que ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur Dark Souls premier du nom.
Tu es une mauvaise langue, ATH.
Non, je suis pas une mauvaise langue, c'est la réalité. Enfin, je suis juste pragmatique. Je suis peut-être pragmatique, mais c'est ce qui va se passer. On le sait tous. Donc, c'est, je vais pas dire oui, Bandai Namco fait ça parce que ils ont envie que les gens jouent à la meilleure version. Enfin, si les gens veulent jouer à la meilleure version, ils prennent la version de base, ils la modent et ça sera quasiment la même chose que les remasters. Parce que les remasters, mis à part que tu peux jouer à 6 personnes online au lieu de 4, il apporte pas vraiment grand chose, quoi.
Le 60 FPS, ATH, le 60 FPS.
Mais le jeu sur PC est déjà 60 FPS. Après, patch de, comment il s'appelle déjà? Ouais, Durante, c'est ça?
Non, mais les gens de mauvaise foi te diront que oui, il y a une échelle dans le jeu où si tu descends trop vite, tu passes à travers le sol. Voilà.
Bah, tu recherches la partie. Enfin, c'est, tu, allô, enfin, je veux dire, on a tous eu des problèmes de bugs dans le jeu vidéo. C'est pas ça qui nous a dit, ah, putain, il y a un bug à ce moment-là. Bon, bah, j'arrête de jouer. Enfin, tu vois, c'est pour ça que moi j'aime bien la version boîte, parce que au moins quand t'as une version boîte, bah si un éditeur décide de retirer un jeu pour X ou Y raison, que ce soit pour des problèmes de licence, de droit, ou même parce que je sais pas moi, ils vont sortir une nouvelle version comme c'est le cas pour Dark Souls, au moins tu peux toujours retrouver une version d'occasion dans le commerce ou bien sur internet. C'est comme si en fait on fait table rase de l'ancienne version, elle n'existe pas, et il y a que la version remaster qui existe. Enfin, voilà quoi, c'est.
Tu vois, moi je pense qu'il aurait été vraiment été réglo. On sort notre nouvelle version remastered, on refait de la lumière, etc. Par contre, on vous patche l'original pour que vous puissiez au moins y jouer à 60 FPS, tu vois. Non, ça, mais... ça aurait été réglo. Mais je sais, je vis dans un monde de bisounours. Non, en fait, je suis un client de CD Projekt, c'est pour ça. J'ai trop été gâté.
Il y a quand même quelque chose qui est paradoxal là-dessus, c'est les joueurs PC ont le droit à une réduction, mais les joueurs consoles qui ont acheté le jeu, qui ont été les premiers à recevoir cette version, parce que c'est quand même les joueurs PS3 et 360 qui ont eu la version de Dark Souls au début. C'est suite à une pétition que la version PC est sortie. Donc moi, qu'elle sort sur PC, je m'en fous, tu vois, c'est tant mieux pour les joueurs PC. Mais les joueurs console, en gros, c'est eux qui ont soutenu la version de base, et c'est eux qui se mangent la carotte, quoi. Pourquoi que les joueurs PC? Dans ce cas-là, ils ont qu'à faire un système de trophées. Regarde dans tes historiques si t'as joué à Dark Souls premier du nom. Je dis pas que ça doit être fait en magasin, mais au moins... de manière digitale, c'est-à-dire sur le PS Store, il te donne un code promo et tu peux récupérer ta version à moins 50%. Pourquoi il y aurait que les joueurs PC qui auraient le droit à ça? Enfin, là, c'est aussi un problème qui me dérange.
Disons que sur PC, ça se voit un peu, quoi, quand même. C'est un peu visible. L'arnaque est un peu visible, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait un geste. Parce qu'ils se sont dit, ouais, là, on va peut-être avoir une shitstorm, en fait, si on continue sur cette voie-là, quoi. On va peut-être avoir un petit souci sur les bras, là. Parce que là, je surveille un peu les forums Steam sur le sujet. Les gens commencent à s'énerver, hein, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont levé le doute sur le sujet, parce qu'à un moment donné, je pense que ça allait péter s'ils faisaient pas ça. Hein. Et je suis même pas sûr que ça va pas péter, hein. Soit dit en passant. Enfin bref, on va passer à la suite, Morren, et on va voir le dernier move de Valve, qui est assez surprenant.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La dernière fois qu'on a parlé de Valve, bon, évidemment, hors Steam, c'était aussi pour évoquer leur plan de se remettre au développement de jeux vidéo et pas uniquement d'être une plateforme mercantile, finalement.
Ils avaient pas dit comment, hein, je précise.
Voilà, ils avaient pas dit comment, on savait juste que voilà, ils étaient en train de taffer sur Artifact, qui est leur jeu de cartes, leur Hearthstone-like, finalement. Et en fait, maintenant, on apprend donc cette semaine que ils ont décidé de racheter un studio de développement, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Camposanto. Camposanto, ça vous dit peut-être rien en termes de nom, par contre, le jeu qu'ils ont développé dernièrement, Firewatch, pour le coup, ça vous dit quelque chose. Donc c'est un jeu narratif, un walking simulator, qui a été annoncé récemment sur Switch, donc ça sortira, il me semble, en fin d'année 2018. Ils sont déjà en train de travailler sur leur prochain jeu d'aventure qui s'appelle In the Valley of Gods, qui sort en 2019, et pour le coup, à l'annonce de ce rachat, on se dit, mais pourquoi en fait? Mais en fait, le communiqué annonçant ce rachat, donc qui est sorti de Camposanto, il est pas spécialement très très clair sur les motivations de Valve à ce rapprochement. On sait que Camposanto, du coup, va déménager. Ils étaient donc à San Francisco, ils vont désormais être à Seattle, dans les locaux de Valve. On sait également que les 12 membres de Camposanto, puisqu'il y a 12 personnes qui travaillent dans ce studio de développement, vont faire le déplacement et ont donné leur accord pour ce rachat. Donc, tout le monde a été consulté dans ce rapprochement-là. Par contre, pour faire quoi chez Valve?
Bah, déjà finir leur jeu, ça c'est sûr, voilà. Ils l'ont dit.
Ça, c'est une certitude, In the Valley of Gods, voilà, c'est leur prochain projet, mais au-delà de ça, on ne sait pas.
Bon, écoute, pourquoi pas, hein. Après, d'un autre côté, faudrait quand même rappeler l'historique de Valve, c'est pas le premier studio qui rachète, hein. Je veux dire, à la base, les développeurs de Portal, ils viennent pas du tout de chez Valve, hein. Je crois que c'est un projet étudiant à la base, il me semble, hein, qu'ils avaient sorti, et Valve est venu les dépocher, tu vois, donc ils sont assez coutumiers du fait, et ce d'autant plus que ces dernières années, on peut pas dire qu'ils aient réussi à garder les membres les plus proéminents dans leur team de développement, notamment chez les gens qui étaient chargés d'écriture, tu vois. Donc peut-être que, tu vois, tout simplement, ils ont marché au bouche à oreille, tu vois, ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un, et ils se sont dit, tiens, ça serait cool de racheter cette boîte, et ils ont racheté, quoi, c'est tout. Bon, après, honnêtement, quand je vois Firewatch, je vous avoue que ça m'envoie pas du rêve, hein, parce que autant la team de Portal, bon, quand tu voyais le projet étudiant qu'ils avaient fait, c'était quand même un peu sérieux, quoi. Autant, là, ouais... Ouais, d'accord, ok, ouais. Cool story, bro, quoi. Bon, Dwayne.
Ouais, non, mais comme tu dis, je pense vraiment qu'on est sur de la recherche de talent, entre guillemets. Après, les goûts et les couleurs en termes d'écriture, ça, c'est autre chose. Mais oui, je pense vraiment qu'ils sont sur cette dynamique. En tout cas, s'ils commencent avec Camposanto, c'est aussi possible qu'en interne, bah, ils aient vu un potentiel sur le jeu en question et qu'ils aient voulu soutenir. Mais pour la suite, vraiment, je pense que c'est surtout ça, c'est essayer au fur et à mesure de dénicher des talents qui pourront ensuite utiliser, parce que là, ils ont la trésorerie. Après, derrière, c'est trouver effectivement des gens avec vraiment des idées, quoi. C'est la seule chose qui leur manque pour l'instant.
Et des gens qui s'intègrent bien à la culture d'entreprise Valve, qui, je rappelle, est très particulière.
Tout à fait.
Morgan ?
Ouais, moi j'avais une question à vous poser justement sur ce rachat. Est-ce que ça serait pas finalement le premier achat d'une série, parce que on sait que Valve a l'intention de faire plus de jeux, et pour l'instant, sans en citer quelques-uns, est-ce que, à votre avis, Valve peut se lancer dans une espèce de salve de rachat justement pour assurer une capacité de production plus développée?
Bah, je sais pas ce qu'en pense ATH, mais moi je dirais chez Valve, on a plus de talent, mais on a un chéquier.
Ouais, c'est ça.
Non, mais je trouve ça bien qu'ils essayent de faire un peu d'édition, pour au moins que, tu vois, s'ils veulent plus faire beaucoup de jeux, bah, ils ont toujours des productions qui sortent de chez eux, un peu à la manière d'un Netflix, qui propose des films et des séries d'ailleurs, et qui sont en ce moment de faire leurs propres films et leurs propres séries qui sont exclusifs à leur plateforme. Ça peut être une option judicieuse pour Valve, je pense. Surtout qu'on sait qu'à ce moment, Valve travaille quand même sur trois jeux en réalité virtuelle, plus un jeu, on va dire, plus classique, mais il n'y a pas d'informations là-dessus. Je me dis que, ouais, ça peut être sympa d'avoir Valve, justement, qui revient sur le jeu vidéo et pas, justement, qui se contente d'offrir un catalogue. Après, c'est vrai que, comme a dit Tyran, les têtes pensantes et ceux qui avaient vraiment porté les projets, qui étaient vraiment, on va dire, les créatifs, ne sont plus là. Par exemple, on pense au mec qui avait fait le design sur...
Victor Antonov.
C'est ça. Qui est parti travailler chez les mecs qui ont fait Dishonored.
Ouais, et maintenant il est dans un studio parisien qui fait un MMO là. Donc il a bien kiffé la France, donc du coup il est resté chez
nous. Donc je me dis quand même, s'ils ont plus les talents eux en interne pour le faire, ils peuvent essayer de dénicher vraiment d'autres mecs ailleurs qui essaient de faire autre chose. Après, je pourrais pas être d'avis critique sur Firewatch parce que j'y ai pas joué, ça m'intéresse pas trop en fait, si tu veux, les Walking Simulator. Mais pourquoi pas, quoi.
Morgan ?
Dernière question, ça pose en fait une interrogation du est-ce que en fait les prochaines productions Camposanto, ça sera des exclusivités Steam du coup ?
Je pense pas qu'ils aient un réel intérêt en fait à se priver du marché console, enfin console Switch quoi.
Ah, moi je pensais plutôt à GOG, tu vois, et tout. Ouais. Parce que par exemple Portal, il n'est pas disponible sur GOG.com.
Ouais, tu veux dire exclusif, oui, sur PC, ouais. Bah oui, ça, évidemment.
Je crois pas une seconde qu'il sera dispo sur GOG, hein, ça... Autant sur console, je pense qu'il y aura pas de souci, parce que après tout, ils avaient bien sorti Portal, hein.
Ouais, bien sûr.
Je rappelle quand même. Donc, ouais, sur console, oui, mais sur PC, ça sera Steam, point, quoi.
D'accord. Ouais, ouais, ça, je pense qu'on est d'accord.
Bon, on va maintenant... parler d'une news assez attristante, mon cher Dwayne. Il y a une mise à jour qui a été faite récemment sur un jeu qu'on connaît bien et qui, Révolution, a retiré du contenu.
Tout à fait, tout à fait. Donc là, on parle du coup de GTA numéro 4. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, on a des une chaîne FM lorsqu'on est en voiture dans GTA 4 qui s'appelle Vladivostok FM. On a pas mal de licences en termes de musique qui avaient du coup une date d'expiration, c'est-à-dire c'était une licence d'exploitation sur 10 ans. Donc ce qui veut dire que là, avec la dernière mise à jour, il y a pas mal de musiques qui vont être retirées de cette fameuse chaîne radio.
Pas que celle-là d'ailleurs, hein, mais celle-là est beaucoup frappée.
Voilà, et d'autres. Et en fait, je pense que ça pose une question plus large. Avant, par exemple, on avait un CD ou une disquette qui restait inchangé, c'est-à-dire que le jeu qu'on a en 1990 est le même en 2018. Là, ça change la donne, c'est-à-dire que tous les jeux sont mis à jour. Donc du coup, quel est votre avis à la fois sur ce GTA 4 et ensuite les perspectives que ça ouvre en termes de modifications sur certains jeux?
ATH?
Déjà, je me vois mal à jouer à GTA 4 sans ces chansons-là, parce que rappelez-vous la scène d'introduction de GTA 4. Ça a commencé par Roman qui venait chercher son cousin Nico sur un port, et justement, il arrivait avec une musique de cette radio-là, Vladivostokovia, il me semble. Et ça apportait quand même une ambiance à tout ce qui se passait dans le jeu, parce que c'était un jeu très porté sur la mafia russe, donc il y avait pas mal d'éléments d'Europe de l'Est. Et là, je me dis que je rejouais à GTA 4 sans avoir ces musiques-là, c'est un petit peu comme si tu enlevais une partie de l'âme de jeu-là, quoi. Enfin, si tu mets d'autres musiques pour changer, je sais pas, ça va être un petit peu bizarre, ne serait-ce qu'en termes d'ambiance et par rapport à ce que ça racontait sur l'œuvre, quoi.
Bah, moi, tu vois, ça me fait un peu l'effet que ce qui était arrivé avec George Lucas quand il avait fait ses éditions sur la première trilogie, et où il avait commencé à rajouter des effets spéciaux, etc. Mais là, au moins, George Lucas, tu pouvais y reconnaître que il faisait ça dans l'idée de faire quelque chose de bien, tu vois, de rajouter du truc. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement on te dénature une œuvre comme George Lucas avait pu le faire, mais en plus on le dénature pas parce que on veut l'améliorer ou quoi que ce soit. Non non, on la dénature parce que contrat.
Ouais.
Voilà. Et moi c'est pour ça que j'aime bien GOG les trucs DRM free, parce que du coup mon exécutable, personne ne viendra changer chez moi, tu vois. C'est le désavantage du dématérialisé, quand tu n'as pas les mains sur les fichiers qui sont dispo, ben tu te fais niquer à la fin, quoi, c'est tout, hein. Je trouve ça triste qu'on altère des œuvres et que même on assiste à des downgrades, quoi, pratiquement, pour des contrats, quoi. Bah, tu me diras, maintenant, aujourd'hui, on a carrément des patchs qui cassent les jeux, donc, écoute, voilà, hein. Bon, ATH?
Je crois que Martin avait quelque chose à dire avant.
Ouais, non, c'était, en fait, juste une question. Par exemple, moi, j'ai la version du jeu sur 360. Est-ce que je peux me prémunir de ce downgrade juste en connectant pas ma 360 sur Internet ou pas?
Bah oui.
Enfin, non, mais déjà, la 360, je suis même pas sûr que le Xbox S soit encore actif dessus.
Si, si, si.
Mais au pire, de toute façon, tu la débranches et puis c'est tout. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ouais, voilà. Enfin, c'est-à-dire que, bah, moi, si je relance le jeu sur Xbox 360, parce que c'est sur cette plateforme-là que je l'ai, c'est sûr que si je vois mes à jour GTA 4, je fais « Nope », tu vois. Déjà, tu vas pas me changer mon œuvre. Et en plus de ça, ça pose aussi d'autres questions sur l'industrie du jeu vidéo, parce qu'on se rappelle que Capcom, avec Marvel versus Capcom 3, il y avait eu ce problème-là, justement, où ils avaient eu des licences Marvel pendant un certain temps.
Mais je crois que c'était déjà arrivé aussi sur GTA, il me semble.
Mais ça me dit quelque chose, moi. Ouais.
Vice City, si j'ai pas de
bêtises. Oui, c'était Vice City.
C'était
ouais.
La même chose aussi pour des droits musicaux. Mais là, pour Capcom, c'était pire parce que eux, carrément, c'était le jeu qui était plus disponible direct à la vente parce que il y avait des personnages de Marvel qui étaient dans le jeu. Le contrat était renouvelé et du coup, ils ont pu remettre le jeu sur le store, tu vois. Mais je trouve ça quand même un peu dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que.
Ouais, ouais.
Du jour au lendemain, ton jeu, non, il n'existe plus parce que, contrat.
On efface l'histoire du jeu vidéo parce que quand même, il faudrait respecter les contrats, tu vois.
Hein, ouais, mais c'est
et après,
complètement
on
cru,
se
quoi.
Demande pourquoi on n'a aucun souci perso avec le piratage, tu vois.
Non, mais t'imagines, aujourd'hui, tu regardes Scarface et ils disent, on n'a plus le droit sur ces chansons-là. Du coup, on te met de la musique actuelle, quoi. Ça, enfin, quoi? Allô? La musique dans Scarface, c'est juste ce qui fait le charme, quoi. Enfin, je trouverais ça complètement aberrant s'ils le font, tu vois.
Dwayne?
Après, juste pour peut-être aller sur une note plus positive, il y a aussi possibilité que la plupart des studios se mettent à négocier ce type de contrat-là différemment. Tu négocies tes droits pour toute l'exploitation, quoi.
Arrêtez d'être con, quoi, à un moment donné, quoi, Rockstar, s'il vous plaît. Morren.
Oui.
On va maintenant revenir sur un sujet, c'est les lootbox. V6 it, buddy. On y est, ça y est, enfin. Bon, depuis quelques temps, il y a des mouvements à droite à gauche, mais tu sais, c'est toujours un petit timoret, tu vois. C'est genre, ouais, non, mais ces jeux-là, c'est pas bien, mais bon, ceux-là, par contre, ça va, c'est cool. Là, ça y est, on a eu un gouvernement qui a posé ses balls sur la table et qui a dit, enfin, c'est une autorité, et qui a dit, bon, maintenant, les gars, on va arrêter de déconner. Et en plus, ils parlent français, donc c'est des gens très bien.
ouais, c'est la commission des jeux de hasard belge qui a rendu, en fait, son verdict sur la situation. Donc en fait, elle avait pris comme sujet d'étude les jeux Overwatch, Star Wars Battlefront 2, FIFA 18 et Counter-Strike Global Offensive, et en fait a déterminé que les loot box sont des jeux de hasard. Je cite, la commission des jeux de hasard arrive à la conclusion que les loot box payants sont des jeux de hasard, et si ceux-ci continuent à être exploités, une approche pénale est envisagée. Et elle conseille d'ailleurs aux décideurs et aux exploitants de jeux, ainsi qu'aux plateformes et aux organismes qui donnent les licences, parce que on parle de FIFA, donc c'est voilà, la personne qui donne la licence, c'est la FIFA, de faire attention à ce genre de mécanisme que sont les lootbox, et le cas échéant, ils décident d'octroyer toujours leur licence à des personnes qui les exploitent en proposant des lootbox dans leur jeu. Donc ils font appel, voilà, de façon plus globale à tous les acteurs de l'industrie, pas uniquement les créateurs de jeux. Mais d'ailleurs, il évoque, par exemple, des amendes qui pourraient aller jusqu'à 800 000 euros.
Je précise, c'est le ministre de la Justice qui dit ça.
Exactement.
Non.
et 5 ans de prison si les discussions avec le secteur ne débouchent sur aucun changement. Donc là, on parle de la Belgique. En France, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas vraiment eu de vraie prise de position de la part de l'ARJEL, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui parle, je cite, de « dérives préoccupantes ». Même si on sent quand même que le président de l'ARJEL est pas spécialement favorable au déploiement des lootbox, je cite, si l'achat d'une lootbox permet de bénéficier de personnages ou d'armes qui sont vendus par ailleurs sur le site de l'opérateur, on est bien en présence d'une loterie prohibée. En revanche, si le gain provient de la vente sur une autre plateforme que celle de l'opérateur, la caractérisation du jeu d'argent apparaît problématique. Et dernière chose, on rappelle que le PEGI et le SRB, qui sont donc les deux organismes qui donnent des notes et des recommandations d'âge sur les jeux, ont refusé en fait d'apposer un macaron lootbox sur les boîtes de jeux.
Bon, en même temps, les éditeurs contrôlant le PEGI, me semble, je trouve pas ça surprenant, mais
bien sûr.
Voilà. ATH.
Je trouve ça vraiment couillu de la part de la Belgique justement d'avoir considérer ça comme du jeu d'argent, parce que c'est très clairement ce que c'est, et il faut appeler un chat un chat. Il y a des enfants qui jouent à ces jeux-là, enfin surtout comme la Team Andren, FIFA 18, il y a un système qui s'appelle le FUT, donc c'est Football Ultimate Team, et en fait c'est un peu un jeu où tu achètes des cartes un peu à la manière, vous savez, comme les Panini quoi, tu achètes des cartes, tu sais pas ce qu'il y a dedans, sauf que là ça a un intérêt dans le gameplay parce que t'as un joueur qui reste avec toi. Il y a aussi des jeux comme Rocket League. Rocket League, c'est un jeu extrêmement populaire.
Ouais, qui était réglo au départ, et tu vois, ça empirait au fil du temps, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais bon, après, ils se sont dit que, bah, notre jeu, il s'est bien vendu, mais comment on peut faire pour rentabiliser ça sur le long terme? Bah, si on mettait des lootbox. Donc ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse, la manière de procéder, surtout quand c'est des jeux qui sont vendus. FIFA, tous les ans, c'est des jeux qui sont vendus quand même 70 euros, plein tarif. C'est pas des jeux non plus qui sont vendus 10 euros. Et même si c'était vendu 10 euros, bah, c'est le prix qu'ils ont décidé de mettre. Si tu veux, même, enfin, je l'air pas ça dans un truc qui est gratuit non plus. Mais c'est juste que c'est encore plus dégueulasse, si tu veux, dans la chose, quoi.
Right.
Moi, j'ai hâte de voir le backlash, en fait, parce que ce qui va se passer, ça, c'est sûr et certain, c'est qu'en fait, en Belgique et dans les autres pays, je pense que, bah, du coup, la France, nous, parce que l'ARJEL, bah, pour taffer avec eux, parce que je bosse pour le PMU, c'est vrai qu'ils sont assez vénères sur ça. Ça m'a même étonné. Bah, je discutais avec certains mecs là-bas. Ça m'avait même étonné, en fait, qu'ils aient laissé passer. Parce que vu comment ils sont vénères sur les paris sportifs, etc., ils laissent vraiment rien passer. Ça, c'est assez cool. Et moi, ce qui va me plaire, en fait, c'est le backlash lorsque t'auras la Belgique avec, par exemple, Football Ultimate Team, toutes les lootbox, tout ça, où eux, il y aura pas de lootbox, et qu'aux États-Unis, bah, ils vont continuer à le faire, parce que c'est à ça. Ce moment-là que ça va vraiment changer, parce que pour l'instant, bah, les gens, ils achètent des lootbox, il y en a, c'est obligé que ce soit comme ça. Sauf que si tu sais qu'en fait, toi, tu te fais pigeonner comme un couillon, et que les Belges et les Français, j'espère bientôt, eux, bah, ils ont pas ces lootbox, là, ça va être autre chose.
Oui, par contre, attendez d'avoir la réaction des éditeurs. Hein. C'est pas encore passé. Il y a pas encore eu loi tout ça.
Oui, voilà. Je voulais juste revenir parce que là, il y a quelques heures, il y a eu une réaction de EA, donc je la lis très rapidement et je vous laisse réagir. Nous croyons fermement que nos jeux sont développés et imaginés de façon éthique et légale partout dans le monde. Et nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Nous tenons à ce que nos joueurs aient une expérience amusante et équitable dans tous nos jeux. Et veillons à ce que chaque jeu soit commercialisé d'une manière responsable et en conformité avec les normes d'évaluation régionale. Nous invitons le ministre Jens à dialoguer sur ces sujets, car nous ne sommes pas d'accord sur le fait que nos jeux puissent être considérés comme des jeux de hasard et d'argent. Donc voilà, ça.
Le contraire m'aurait étonné, tiens.
Bon, voilà les premières réactions.
Ouais, non, parce qu'en fait, c'est assez simple. La ligne de défense de l'industrie, c'est, mais non, c'est pas un jeu d'argent. Parce que quand tu fais un jeu de hasard ou un jeu d'argent, t'es pas sûr que tu vas gagner quelque chose à la fin. Forcément, quand tu grattes un ticket à gratter, bah, tu sais pas si tu vas choper tes 2 euros pour rembourser ton machin ou si tu vas juste choper Walou ou choper 10 000 euros. Là, la ligne de défense de l'industrie du jeu vidéo, c'est de dire, oui, mais dans ma lootbox, en fait, il y a toujours quelque chose. Alors, c'est peut-être un truc que tu veux pas, mais il y a toujours quelque chose. Donc, t'es toujours gagnant. Et c'est en ça que ils disent, ouais, mais non, en fait, du coup, c'est pas un jeu de hasard, c'est pas un jeu d'argent. Bon. Je reviens sur ce que tu disais, Dwayne, le côté, et si, en fait, la réaction européenne faisait, du coup, un effet domino. Mais est-ce que ça te paraît vraiment envisageable qu'une entreprise comme EA se dise, bon, alors les Belges, les Hollandais, ils veulent pas de mes lootbox, donc je les enlève de mon jeu juste pour la Hollande et pour la Belgique et éventuellement la France si un jour on se réveille. Est-ce que ça vous paraît vraiment envisageable alors, qu'il y ait une réaction là-dessus?
Juste, je vais donner la parole à TH après, mais à mon avis, ça passera même pas en Belgique. Hein. Donc, moi, tu sais, je suis très pessimiste hein, sur le sujet. Parce que, pour le moment, on en est en discours, j'attends de voir les actes. ATH ?
Ouais, la déclaration du mec de chez Linktree Cards, enfin, c'est une déclaration très corporate. Hein. Il n'allait pas dire, ah, c'est vrai, vous avez raison.
Ah oui, c'est très bien, ouais, on a fait de la merde. Hein, on...
oui, voilà. Enfin, vous savez, même quand les grandes entreprises, quand ils font des conneries, en général, ils disent pas qu'on a foiré, mais ils disent, on va réfléchir, on va voir comment on peut améliorer les choses.
Bullshit!
Voilà, tu vois, enfin, c'est le bullshit habituel. Après, c'est normal, hein, c'est son job, il va pas se tirer une balle dans le pied. Mais comment dire? Pour moi, en fait, c'est clairement du jeu d'argent parce que c'est vrai que, on va dire, dans les jeux à gratter, par exemple, on n'est pas sûr de gagner quelque chose, quoi. C'est même très rare que tu gagnes quelque chose. Enfin, t'as plus de chances de perdre que de gagner. Sauf que là, il y a quand même la notion d'aléatoire et aussi la notion d'addiction qui vient là-dedans. J'ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast-là de gamins qui utilisaient des cartes bleues de leurs parents ou de leurs grands-parents pour acheter des joueurs fictifs sur FIFA parce que, enfin, ça reste que du dématérialisé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui apparaît pendant comme ça un certain temps et puis après qui disparaît. Du coup, t'es obligé de repasser à la carte bleue. Enfin, surtout dans FIFA 18 parce qu'il y a cette notion de temporalité. T'es amené régulièrement à faire chauffer la carte bleue.
Attends, parce que il y a des gens là qui te répondraient, oui, mais il y a une obligation parce que c'est vrai qu'il y a une loi normalement pour que si jamais ça arrive ça à un gamin, tu vois, il rembourse ses parents en fait. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, ben écoutez, c'est formidable, on est tous d'accord en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une loi pour que on appose un macaron sur la boîte et qu'on puisse pas vendre ça à des gamins. C'est cool, non? On vous évite tout, plein de problèmes, non, en fait.
Après...
mais ah, vous voulez pas? Pourquoi vous voulez pas? C'est bizarre, je comprends pas.
Non, bah, non, parce que, tu vois, enfin, déjà, il y a un autre problème, c'est que, par exemple, le PEGI, c'est pas une interdiction, c'est juste un conseil d'achat. Tu vois, donc c'est pas genre, tu te pointes dans ton magasin, il y a écrit PEGI 18 et le vendeur te demande ta carte d'identité. Et la seule chose, en fait, pourquoi le PEGI peut intervenir, c'est vraiment en termes de publicité à la télé. C'est-à-dire que un jeu à partir de PEGI 16 ne peut être diffusé qu'à partir de 22h à la télévision et pas avant.
Hmm. Ouais, mais ça, tu vois, déjà, rien que ça, voilà. Je peux dire qu'il y en a qui vont réfléchir. Hein.
Non, mais c'est sûr que ça peut faire réfléchir parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Hein. La publicité, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Si un jeu comme FIFA 18 se voit affublé d'un macaron 18+, plus... ce jeu comporte des risques d'addiction, tu vois. Peut-être que déjà les parents vont réfléchir avant d'acheter le jeu, tu vois. Alors gamin, mais surtout, mais il faut que le macaron il soit vraiment balèze sur la boîte, tu vois, pour que tu aies attention. Pas genre le petit truc qui est caché derrière la boîte. Il faut lire tous les conditions générales d'utilisation pour le trouver, quoi.
C'est ça. Bon, et on va terminer, Morren, sur un instant d'émotion.
Oui, je pense que pour nous, ça va surtout être un instant de rire jaune. On en avait parlé à l'époque, il y a eu une vaste enquête sur les pratiques dans l'industrie du jeu vidéo et notamment dans l'industrie du jeu vidéo française.
Ouais, d'ailleurs, je vous rassure, on n'a pas reçu de courrier. Hein.
de la part donc de Mediapart, Canard PC et Le Monde. Il faut savoir en fait que Quantic Dream a déjà réfuté de manière assez virulente tout ce qui avait été dit dans ces enquêtes-là, évidemment.
Bon, ça c'est normal, hein, j'en veux dire, c'est le jeu, ma bonne lucette.
Voilà, c'est le jeu. Par contre, ce qu'on ne savait pas encore, c'est que ce n'est pas resté lettre morte du point de vue juridique en réalité, puisque Mediapart et Le Monde ont tous deux été assigné en justice par Quantic Dream, qui a d'ailleurs nommément en fait traîné en justice les journalistes de Mediapart et du Monde. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi Canard PC n'a pas été traîné en justice, mais
déjà pour moi rien que ça s'en dit long, hein, parce que s'ils n'ont pas trouvé de quoi attaquer, ça veut dire au moins que ce qu'il y a dans l'article c'est vrai. Hein. Voilà.
Et donc en fait voilà, ça a été effectivement confirmé à des journalistes de Kotaku, parce qu'en fait comment ça s'est su ? Jason Schreier, qui est donc un journaliste de Kotaku, a publié un bouquin justement sur l'industrie du jeu vidéo qui s'appelle Blood, Sweat and Pixels, et donc
ouais, du sang, des larmes et des pixels, dont on va parler ici d'ailleurs.
Et donc ça sort en France bientôt, d'ici au mois de mai il me semble, et donc il était en France pour faire une tournée un peu média, et il devait rencontrer William Oduro, qui est l'auteur de l'enquête du Monde, pour parler de son livre. Et il s'est trouvé en fait que William Oduro ne pouvait pas être là.
Ouais, alors à ce moment-là, il savait pas que c'était le procès de Quantic Dream, mais...
Voilà.
Une lumière s'est allumée dans son cerveau. Oui. Et du coup, il a demandé à quelqu'un de chez lui, de chez Kotaku, qui avait rendez-vous avec David Cage, de poser la question.
Voilà.
Et là, David Cage n'ayant pas pu s'empêcher de se taire, eh ben, on a eu la réponse. Oui, 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 on va faire un procès à leur journaliste. Voilà.
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 Donc,
voilà.
Ce qui est fou, en fait, c'est qu'ils poursuivent non pas les médias, mais les journalistes qui ont écrit ces enquêtes. Ce qui est pas forcément
tout à fait pareil.
Ouais, c'est ce qui est pas pareil et c'est assez inhabituel. Gamekult d'ailleurs écrit que à leur connaissance, c'est le premier cas d'un procès opposant un studio de jeux vidéo à des journalistes. Donc là, on est vraiment dans un monde, c'est assez ubuesque hein, comme information à procès, c'est impressionnant quand même.
Gamekult qui, précisons-le, rien que pour avoir osé attention, parler de cette affaire a reçu un petit courrier des avocats de Quantic Dream quand même. Hein.
Ouais, une mise en demeure justement pour avoir relayé et couvert l'enquête de leurs confrères. Donc on est vraiment dans le taisez-vous quoi.
Bah, venez les mecs, on se tait, on arrête de parler, c'est bon. Non mais franchement, enfin, ils attaquent pourquoi ? Pour diffamation, donc c'est bien ça ?
Non, c'est pas ça. Ils accusent les journalistes de ne pas avoir respecté en fait le discours des deux parties, c'est-à-dire que dans leur enquête, selon Quantic Dream, on entendrait uniquement un seul son de cloche. Ce qui est faux d'ailleurs, puisque si tu regardes les articles, ils avaient interviewé Guillaume de Fondomière. Donc à quel moment tu te dis non, en fait notre point de vue il a pas été respecté ?
Non, et puis surtout, encore une fois, c'est bizarre, ils en ont attaqué que 2/3, en fait. Ils ont tous les trois travaillé ensemble. Alors certes, ils parlaient pas tout à fait des mêmes sujets, hein, on est d'accord.
Exactement, ouais.
Mais à un moment donné, je veux dire, c'est quand même curieux, quoi, comme démarche. Alors ça veut dire qu'au moins un des trois articles... surtout, j'avais pas l'impression que celui de Canard PC... était spécialement plus, comment dire, open sur l'opinion de Quantic Dream sur le sujet, quoi, en plus. Dans tous les cas, écoutez, chapeau à l'artiste. Enfin, là, c'est que du bonheur, c'est de l'émotion à l'état pur. Enfin, je veux dire, les mecs, ils avaient qu'à fermer leur gueule. Tout le monde aurait oublié cette histoire. Là, ils t'ont fait un effet stressant. Tous les sites anglophones en ont parlé. Et je peux vous dire que, bizarrement, moi, ça m'a étonné, les anglophones ont l'air beaucoup plus sensibles à ce genre de sujet que les Français, en fait. Donc, tout le monde en a parlé, quoi. C'est un truc de fou. Donc, bravo Quantic Dream, ça, c'est de la communication. Bon, en plus, en général, ce genre de procès, c'est l'occasion pour celui qui fait le procès de passer pour un con. Donc, voilà.
Bah, j'espère qu'ils passeront vraiment pour des cons. D'où tu attaques des journalistes, en fait, qui font une enquête. Enfin, c'est leur job de chercher les choses. Enfin, normalement, quand un vrai journaliste fait bien son travail... Il est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Il est là pour apporter une information avec des faits qui sont avérés. Mais en plus, le pire, c'est que par rapport à ça, il y a eu des preuves qui ont circulé sur Internet. Enfin, que ça soit.
Et en plus, ils attaquent même pas les faits. En fait, c'est même pas le sujet, quoi, à la limite. Tu vois.
Ouais, mais dans ce cas-là, tu sais quoi le propos de cette attaque, c'est vous avez fait une enquête sur nous. On n'est pas d'accord. Enfin, là, il faut vraiment que les avocats soient costauds parce que pour sortir de ce truc-là, j'espère vraiment que Quantic Dream va se mordre des doigts par rapport à ça, parce que c'est juste pas logique, en fait.
C'est grave, quoi. Non, mais surtout, c'est grave. Enfin, tu te rends compte que maintenant, on en arrive à un stade où les studios peuvent se dire, tiens, bah, écoute, ce qu'il a écrit, machin, ça me plaît pas, du coup, on va lui faire un procès pour l'intimider un peu, quoi. Ça va le calmer un peu, quoi. Enfin, c'est, waouh!
Non, mais surtout qu'en matière de droit, il y a quand même, la liberté de presse qui existe. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, ces journalistes-là seraient attaqués. Dans ce cas-là, dès qu'un journaliste fait une enquête, il peut être attaqué par n'importe qui à partir du moment où il raconte quelque chose qui ne plaît pas à telle ou telle personne.
Oh bah tu sais, c'est très courant. Hein. Ça par contre, je veux dire, regarde ce qui sort en ce moment sur le droit des affaires, etc. où on met les journalistes dans la merde au niveau européen. Enfin bref, c'est pas nouveau. Hein. Des journalistes qui ont sorti des enquêtes ici sur des banques, etc. et qu'on a fait chier pendant des années après avec des procès sur procès sur procès sur procès. Bon. Que ça arrive avec des banques, tu vois, ça m'étonne pas. Les mecs, il y a des gros enjeux financiers et tout. Mais là, je veux dire, enfin, oh mon Dieu, ils ont osé dire du mal d'un studio de jeux vidéo. Enfin, bref. Morgan?
Ouais, cette histoire, aussi US que soit-elle, ça permet encore une fois de remettre un coup de projecteur sur cette affaire parce que je trouve que au final, les gens s'en sont très vite foutus de ces enquêtes-là. On en a très très peu parlé finalement. Ça a fait très peu de répercussions malgré finalement le fait que c'était très suivi hein, de la part de Canard PC, notamment de Mediapart et du Monde. Au final, j'ai trouvé que ça avait fait un effet un peu pchit, quoi. Et parce que j'ai l'impression que les gens se sentent pas spécialement concernés et je trouve ça extrêmement dommage, et merci finalement Quantic Dream d'avoir remis ça sous les feux des projecteurs, parce qu'au final, on va peut-être enfin pouvoir en reparler, donc ça, ça va pouvoir relancer un petit peu les débats, donc c'est cool.
C'est sympa de nous donner un prétexte. Hein.
Ouais, merci les gars, et d'ailleurs, je voulais dire, enfin conclure là-dessus finalement, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire ça Quantic Dream? Rien du tout. Est-ce que ils vont avoir des indemnités de la part du monde? Probablement pas. Est-ce qu'ils vont probablement perdre leur procès? A priori oui. Quel est leur angle d'attaque là-dessus? Je vois pas ce qu'ils ont à gagner sur ce procès-là. Je trouve que c'est ridicule cette histoire-là. Donc finalement, c'est tout bénef pour nous. Nous permettons du coup de remettre un petit coup de projecteur sur cette affaire-là. Je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas encore lu, ces enquêtes-là, elles sont passionnantes et extrêmement intéressantes. Voilà, lisez-les ou relisez-les même si vous les avez déjà lues, parce que c'est vraiment très important.
Bon, par contre, si on reçoit un courrier, genre c'est un crowdfunding hein, pour le procès, hein, je vous préviens. Bon, allez,
oh, merde.
On va passer au jeu du moment, et le jeu du moment, c'est God of War.
Je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit. Vous devez commencer par me couper la tête.
Quoi?
Cette hache que t'as là... Tu dois la manier avec grâce.
Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne.
Plus tu tarderas, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais.
C'est ton tour! Je vais t'arracher la tête!
Tu es un dieu et lourd de conséquences!
Pourquoi? Comment tu le sais? Comment tu le sais?
La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie.
Bon, messieurs, God of War, tout ça, hein, je présente pas, beat'em all, licence très connue pour ses QTE, etc. Mais là, tout a changé. On est passé du côté Last of Us de la Force, n'est-ce pas? On est plus dans un Kratos adulte avec son fils. Ça y est, c'est de l'émotion, hein, comme avec David. C'est un God of War qui se prend un peu plus au sérieux, j'ai l'impression, déjà. Mais c'est aussi un God of War qui a, au final, complètement changé son approche en termes de gameplay. Et c'est par là, je pense, qu'on va commencer. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, ce God of War, c'est pas un melting pot de plein d'influences qu'on a vu ces dernières années? Et est-ce qu'il est réussi? Alors, j'ai commencé le jeu hier soir, hein, pour vous tout vous dire. Et moi, c'est la première chose qui m'a frappé. C'est-à-dire que là, je vois un peu de Dark Souls, là, je vois un peu d'Hellblade, là, je vois un peu de Last of Us, etc. On prend tout ça, on met dans un petit shaker, allez, allez, hop, et c'est parti, c'est roulé jeunesse, quoi.
C'est ça, c'est qu'en fait, de la même façon qu'Horizon Zero Dawn l'avait fait, il prend plein d'influences et il les met un peu à sa sauce, mais il fait tout très bien, en fait. D'un point de vue du gameplay, donc on a maintenant cette hache qui est de la même manière que Mjolnir, enfin le marteau de Thor, il la balance et ensuite il peut la faire revenir directement. Donc on a pas mal de mécaniques qui s'imbriquent à la fois avec cette hache, à la fois avec, bah, quand il a pas la hache, ses poings et ses boucliers. Ils ont rajouté tout ce côté un peu plus RPG avec un arbre de compétences pour quand tu te bats avec tes mains, ton bouclier. Quand tu te bats avec la hache, donc voilà, c'est vraiment, t'as vraiment toute cette évolution. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en as pensé du coup à TH?
Ouais, je suis assez d'accord avec vous, mais moi j'aimerais bien revenir quand même sur les différentes influences de ce jeu-là.
C'est important.
Ouais, il y a vraiment du Naughty Dog là-dessus, la patte, que ça soit par des plans de caméra, la manière de montrer certaines situations, d'interagir avec deux personnages qui évoluent, on a vu ça notamment dans The Last of Us. C'est vraiment, pour moi, la plus grosse source d'inspiration, même pour les jeux Sony en général, c'est-à-dire vraiment, vous savez, une caméra assez proche du personnage. Quand tu vois un jeu comme ça, tu te dis, ouais, ça, c'est un jeu Sony, quoi. C'est un jeu exclusif PS4. Parce qu'il y a cette manière de montrer les choses qui revient systématiquement. Mais après, c'est vrai que on pourrait citer aussi Dark Souls, ne serait-ce que pour le système, même si il n'y a pas la jauge d'endurance, mais...
Oui, j'allais dire, l'inspiration de Dark Souls est évidente. Moi, après, je suis assez extrémiste hein, sur Dark Souls, vous m'excuserez. pour moi, la jauge d'endurance, c'est l'alpha et l'oméga de Dark Souls. Quoi. L'endurance, c'est le truc qui peut te niquer un combat dans Dark Souls.
Ouais, bien sûr.
Et là, le fait de la retirer, ça donne quand même quelque chose d'un peu différent. Quoi. Je veux dire, c'est pas copier-coller, voilà quoi.
Non, oui, mais enfin, je veux dire, par rapport au placement des personnages, le système de compte, mais... C'est repris à Dark Souls comme on va dire Assassin's Creed Origins a pris quelques mécaniques de Dark Souls sans être vraiment du Dark Souls, tu vois. Enfin, après je sais pas si c'est vraiment une influence.
Disons que ils ont vraiment repris le mapping des boutons déjà, les actions que ça fait, mais ils ont rendu le tout moins, enfin, plus fluide quoi, on va dire. Après pour le meilleur et pour le pire, j'en reparlerai après, ils ont vraiment occidentalisé Dark Souls et ils ont viré la jauge d'endurance quoi.
Voilà, parce que tu joues quand même un dieu de la guerre quand même, tu vois, donc c'est on va dire la jauge d'endurance il connaît pas. Dark Souls aussi pourquoi, parce que il y a aussi ce système, vous savez dans le Dark Souls il y a un level design qui est fait par rapport à certains endroits où on peut passer et puis on débloque des raccourcis qui nous permettent de revenir plus facilement. Et bah là dans God of War, il y a un peu ce système là mais en vraiment ultra light, tu vois. Au tout début du jeu, il n'y en a pas trop. Mais c'est plus en avançant vraiment un peu plus loin, il y a vraiment ce côté, genre, tu fais tout un tour et puis tu reviens en fait au tout début. Mais genre, il y avait une porte qui te permettait d'accéder, mais elle était bloquée. Donc, t'as dû faire tout un détour pour revenir au point de départ, quoi.
Non, mais ça, oui, d'accord. Mais par contre, là, moi, je vais juste donner mes impressions de début de jeu. Alors, je précise avant de commencer que j'ai mis le jeu dans la difficulté juste au-dessus de normal. Hein. Et que, pour le moment, alors je sens bien l'enthousiasme de Dwayne, etc. Je trouve ça sympa, ouais. Mais honnêtement, je trouve pas ça ouf. Hein. C'est-à-dire que je trouve le jeu hyper répétitif, pour le moment. Je pense que c'est lié à la difficulté que j'ai choisie, mais je trouve que pour tuer des mobs de merde, il faut quand même 3 plombs pour les tuer, donc je pense que je vais changer de difficulté tôt ou tard. En fait, je trouve que tu répètes souvent les mêmes combos. Pour un dieu de la guerre, bah, je trouve justement que le vieux Kratos, il se traîne un peu du cul. Alors, je sais que ça colle avec le scénario qui va le faire passer, tu vois. Mais la férocité de Kratos, heureusement qu'il y a eu le premier vrai combat, on va dire, où il commence à la montrer, parce que je commence à m'inquiéter, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ouais, Kratos, je sais pas, t'as tué les dieux de l'Olympe, etc. J'ai l'impression que... Je sais pas ce qui s'est passé, mais putain, faut ressortir de la maison de retraite, là, tout de suite. Hein. Faut faire une session de mise en forme, etc.
Ah, il a vie,
parce que
il a
t'es mou, quoi. Enfin, t'es... Waouh, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais j'entends totalement ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai ressenti aussi un peu au début... le côté enfin légèrement répétitif, mais en fait tu vas pouvoir débloquer différents combos etc qui vont justement diversifier un peu le gameplay, donc tu vas balancer ta hache, faire un combo, ensuite utiliser Atreus, après t'as bah juste pour revenir rapidement sur Atreus, j'avais peur comme dans tous les jeux vidéo où tu te traînes une IA, que ce soit un boulet évidemment, à aucun moment je me suis dit ah ouais il fait chier Atreus quoi, c'est il est vraiment.
Tu veux dire qu'ils ont pas fait une Resident Evil 5?
Exactement, il est toujours là vraiment pour t'aider, il est dans les bons espaces etc. Il va venir parfois, bah t'as des combinaisons, c'est-à-dire s'il est par exemple sur un ennemi, donc tu vas le frapper, tu vas avoir un bonus par rapport au fait qu'il soit avec ses jambes autour de la tête d'un ennemi en train de lui balancer des flèches. Et toi du coup le fait de le taper, bah t'auras un bonus en plus. À côté il a aussi des invocations, enfin tu peux l'utiliser par exemple en tant que combo breaker, c'est-à-dire que l'ennemi va venir sur toi, bah Atreus il balance une flèche, donc tu vas casser le combo, et t'as pas mal en fait de combinaisons qui se mettent en place. Après par rapport au mode de difficulté, moi j'ai trouvé que le mode normal était pas trop mal, c'est-à-dire qu'il est pas... enfin je le trouve vraiment bien dosé quoi, j'ai eu un petit challenge même si c'était pas non plus énorme. Moi en tout cas je suis assez séduit, même si c'est pas... comme je l'ai dit, ça révolutionne vraiment rien. Mais en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, surtout dans l'évolution. Après, c'est vrai qu'au départ, enfin, je sais pas exactement à quel niveau t'es, mais c'est vrai qu'au départ, j'ai pas trouvé ça fou, quoi.
ATH.
Concernant la difficulté, je trouve qu'en mode normal, en fait, elle est bien dosée. Et je trouve justement que, tu vois, c'est pas un jeu qui se contente de faire comme la plupart des AAA. C'est-à-dire, même en mode normal, en fait, c'est le mode facile de, tu vois, de l'époque. Là, c'est vraiment genre le mode normal. C'est le mode normal avec certains passages qui sont difficiles. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Et c'est vrai que je te rejoins totalement là-dessus. Le début du jeu, on n'a pas beaucoup de combos. C'est un petit peu mou. Et en fait, on fait très souvent les mêmes actions parce que on n'a pas beaucoup de possibilités.
Genre, t'as deux coups forts, trois ou quatre coups faibles, et puis voilà, et le bouclier. Voilà.
C'est ça. Et puis aussi le fait que tu peux
balancer ta hache,
à distance, tu peux voilà. Après, c'est des mécaniques qui vont évoluer au fur et à mesure. Ça va vraiment s'étoffer. Donc du coup, tu dis ouais, là, je retrouve un peu mon Kratos, tu vois, de l'époque PS2, PS3. Après, on n'est pas dans un jeu japonais non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Bayonetta ou un DMC où on peut faire des combos de folie, voler dans le ciel, etc. Là, on est vraiment sur des séquences d'action que tu vas répéter plus souvent que dans un Bayonetta, par exemple.
Ouais. Par contre, ATH, du coup, je voulais te poser la question. Moi, j'ai une impression, mais pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de variété en termes de bestiaire.
Ah, là, tu...
tu soulignes un point, c'est un gros problème pour moi parce que, en fait, le bestiaire, il n'est pas varié du tout, c'est-à-dire... Je vais donner un chiffre comme ça aléatoire, mais il y a une dizaine d'ennemis dans le jeu. Et puis, t'as des variantes, donc, les color swap. Un peu comme Capcom faisait à l'époque, dans les années 90. C'est-à-dire, Street of Rage, tu commences, tu te bagarres avec le mec en jean bleu, puis après, tu avances deux niveaux plus tard, c'est le même, il est plus fort, il a un jean rouge. Soit. Là, dans God of War, il y a un peu ce système-là, donc on va recroiser très souvent les mêmes ennemis. Et je trouve que même pour un God of War, par exemple, bah, ça manque de boss, quoi. God of War, c'est connu parce que c'est les finish moves quand tu détruis un dieu. Là, il y a très peu de boss, finalement, dans le jeu. Ou du moins, tu vois, de boss qui sont marquants, c'est-à-dire un boss qui est unique dans le jeu et qui tu vas affronter une fois. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont considérées comme boss, mais qui finalement, c'est pas vraiment des boss, parce que quand on a buté 3-4 dans le jeu, tu dis, bah, ok, c'est sympa, mais ils sont où les Ares, les Zeus et tout ça? Là, j'ai vraiment l'impression, vraiment, dans tout le jeu, d'avoir battu un ou deux boss vraiment iconiques, quoi, de ce jeu-là, mais c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu, quoi. Et c'est un petit peu dommage pour un God of War de pas envoyer la purée là-dessus.
Dwayne?
Bah, ce que tu dis par rapport au boss et à la diversité des ennemis, c'est pour ça que quand j'avais donné mon avis sur le Skype, sur le groupe, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est un excellent jeu, mais un God of War vraiment canonique qui est plutôt moyen, dans le sens où, bah, ce que tu dis avec la diversité, ouais, c'est, t'as dit 10, mais en termes d'ennemis, on va dire non mob, c'est-à-dire entre middle et gros, ouais, 10, t'es même généreux, je trouve.
Ah non, mais moi, je parlais de 10, le bestiaire classique, quoi. Ouais, genre, total, quoi. Les drogueurs.
Moi, j'ai trouvé une certaine... Bon, après, il y a l'histoire, pas l'histoire, mais plutôt vraiment la narration, la façon dont c'était amené, qui rattrapait un peu. Mais il y a vraiment des moments où, ouais, je suis là, le toit, il était en mode, le même, mais en mode feu, en mode glace, en mode bleu, rouge. Enfin, on n'est pas chez Power Rangers, quoi.
Exactement.
Ça m'a un peu vénère à un moment donné. Dans le sens où, ouais, j'étais en train de refaire la même chose, sauf qu'on m'a juste mis une couleur et un élément différent, quoi. Donc ça, on est d'accord sur ce point jusqu'à la fin.
Bah, justement, tu parles d'histoire, Dwayne. Alors, une autre question. Encore une fois, j'en suis qu'au début du jeu, mais j'ai un peu le sentiment quand même qu'ils sont un peu limités par le personnage de Kratos. C'est-à-dire que, autant le côté interaction avec le gamin, je le trouve très intéressant, parce que, comme vous le dites, même au début du jeu, il est pas du tout inutile. Enfin, t'as pas l'impression de te traîner un putain de truc dont t'as envie de te débarrasser. Moi, vous savez, les mioches dans les gamins, c'est ma grande passion. Hein.
Les mioches dans les gamins.
Attention.
Les mioches dans les jeux, c'est ma grande passion. Hein. Je rappelle quand même que je suis le gars qui adore voir les mioches se faire bouleter dans Skyrim. Hein.
D'ailleurs, t'as pas mis un mode pour les tuer dans Skyrim, justement?
oui. Non, mais justement, il y a rien de plus génial que d'avoir un dragon bouleter un gamin dans Skyrim. Enfin bref, voilà. J'aime beaucoup les enfants.
Oh,
ce podcast est très tendance, n'est-ce pas? Et le souci, c'est que au départ, tu sais, moi, j'ai toujours dit que j'avais beaucoup de mal à prendre Kratos au sérieux parce que je voyais le passif de Kratos et que je m'imaginais mal Kratos développer une relation de père-fils très sérieuse, etc. Genre, tu verras mon fils quand tu seras grand, etc. Enfin, je sais pas, quand tu vois le mec crier à tout bout de champ dans les épisodes précédents, si tu veux, il y a un truc qui colle pas, quoi. Mais finalement, je trouve que ils ont plutôt bien abordé la chose, c'est-à-dire que le pauvre Kratos, bah, il aligne trois mots à chaque fois, quoi. Il est assez monolithique, quoi.
Bah, je pense que lui et Hitman, ça doit être les mecs les plus bavards du jeu vidéo, quoi. Lui, l'agent 47, si tu les mets ensemble dans une pièce, t'entends les bouches voler, quoi.
Grande conversation, quoi. Et mais du coup, mon souci, c'est que j'ai l'impression que, ben, bah, est-ce que il aurait pas mieux valu prendre un autre personnage que Kratos, quoi. Au final, ne serait-ce que pour avoir une relation père-fils un peu intéressante, quoi. Après, encore une fois, moi, je spécule sur ce que je vois, mais pour le moment, j'ai l'impression que le pauvre Kratos, il va aligner trois mots tout le long de l'aventure. Est-ce que, finalement, ça aurait été pas plus intéressant de faire table rase de Kratos et passer à autre chose, quoi, en fait?
Bah, ça aurait pu être justifié, tu vois, genre, ils auraient pu appeler ça God of War et partir avec un autre héros dans une nouvelle mythologie. Mais là, c'est vrai que, moi, Kratos, je trouve que il est très intéressant sans dénaturer le personnage. Le personnage va évoluer au long de l'aventure, mais c'est quelqu'un qui va être, tu vois, très silencieux, très réfléchi. En fait, plus il va avancer, plus il va réfléchir. Et plus, comment dire, il va dévoiler, en fait, pourquoi, si tu veux, il s'exprime peu, pourquoi il a la méfiance envers tel ou tel type d'individu. Et c'est quand même vraiment pas mal. La relation qu'il a avec Atreus, au début, c'est vraiment, t'as l'impression que, limite, c'est pas son fils, quoi. Et au final, il va se passer des choses. Même Atreus, j'ai trouvé, au bout d'un moment, tu le vois pas du tout avec les mêmes yeux que tu le voyais au tout début du jeu.
Moi, je vous le dis, le personnage d'Atreus, en tant que joueur au début du jeu, c'est celui qui m'intéresse le plus. Hein,
non, mais même, tu vois, le gamin, il est intelligent, quoi. Il sait lire les runes que son père, il ne sait pas lire. Son père, en fait, il parle juste nordique, mais il a pas appris à lire cette langue-là. Et du coup, Atreus, lui, c'est quelqu'un qui est très baigné dans la mythologie, qui connaît vraiment beaucoup de choses sur le monde et qui est en quête d'apprentissage. Et du coup, même quand il va rencontrer des PNJ, tu vois, Atreus, ça va être le mec curieux, c'est-à-dire, en fait, il va poser des questions, pourquoi si, pourquoi cela, alors que, tu vois, Kratos, il est là, et même des fois, Kratos, il va lui dire...
Mais on s'en fout, bordel.
Ouais, et puis lui, il dit, non, mais moi, je veux savoir, moi, je veux savoir, donc, la construction, si tu veux, elle fonctionne plutôt bien, même, j'ai envie de dire que, par rapport, en fait, à un personnage aussi monolithique que Kratos, bah, Atreus, il apporte un peu de fraîcheur à cet univers-là.
Est-ce que, finalement, Kratos n'est pas là pour mettre en valeur Atreus?
Bah, en fait, moi, après, ça, c'était une théorie que j'avais avant que le jeu sorte, c'est-à-dire que je voyais vraiment Atreus devenir le God of War qui prend la relève de Kratos, parce que l'histoire de ce jeu-là, en fait, c'est pas une quête de vengeance, tu vois. Tous les autres God of War, Kratos veut toujours se venger de quelqu'un, que ce soit d'Arès ou de il veut toujours buter tout le monde. Là, il bute toujours tout le monde, mais il va pas aller chercher à tuer tel ou tel individu, mais c'est vraiment si quelqu'un lui fait chier, et bah, il va dire, écoute, mec, là, tu me casses les couilles, maintenant, je vais te montrer de quoi je suis capable. Mais il va jamais, si tu veux, faire ça gratuitement. Et lui, il suit vraiment un objectif qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans un God of War. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et je voulais juste finir aussi sur Atreus. J'en ai pas parlé tout à l'heure en termes de gameplay, mais moi, je trouve que c'est un personnage quand même qui, comme support, est très très utile. Si tu l'utilises à certains moments précis, bah là, il peut te faciliter vachement la tâche et il est utile. Donc, pour moi, Atreus, c'est pas un boulet, quoi, tout au long du jeu. J'ai vraiment apprécié ce personnage-là et j'espère qu'il va être plus développé dans la suite en prenant peut-être une plus grande importance ou même qu'il soit carrément jouable. Ça serait très, très, très intéressant, je pense.
Non, mais clairement, de toute façon, moi, c'est ce qui m'a, sauvé, entre guillemets, non, parce que j'ai trouvé le jeu très bon. Mais ouais, c'est vraiment cette caractérisation et l'évolution qu'ils ont réussi à faire de Kratos, en fait. C'est vraiment bon parce qu'en fait, tu gardes le perso et tu le vois évoluer. Après, t'as tous les PNJ qui sont à côté, qui apportent un peu d'humour et ça passe assez bien. T'as pas mal de PNJ qui... Enfin, pas mal. T'en as surtout trois, quoi, qui sont assez cool. Et la façon d'interagir avec Kratos... Enfin, moi, il y a eu certains moments où... Il y avait de l'émotion, quoi, mais vrai, quoi. Des moments où, sans lâcher un mot, c'est-à-dire dans les regards, tu sentais l'évolution du personnage, quoi.
Ouais, très clairement.
Et sans même qu'il parle.
Moi, je pense qu'on pourrait quand même parler d'un truc qui est beaucoup mis en avant, surtout dans les tests qui sont parus chez les journalistes. Ça serait, en fait, l'aspect graphique, technique, direction artistique, tout ça. Alors moi, globalement, si vous voulez, j'ai trouvé, en fait, le jeu très beau dans son ensemble. Que ça soit les effets de particules, la direction artistique de certains lieux. J'ai trouvé ça juste sublime. Par contre, est-ce que c'est le plus beau jeu sur la PlayStation 4, ou voire même le plus beau jeu tout court? Je pense qu'un jeu comme Horizon Zero Dawn s'en sort vraiment mieux que God of War par rapport à ça.
Pour avoir vu Horizon tourner...
Même, tu sais, God of War, c'est pas un open world, alors que Horizon, c'est un open world, et je pense qu'ils ont poussé le truc beaucoup plus loin, et il y a certains effets qui m'ont paru un peu cheap sur God of War. Par exemple, c'est bête à dire, mais l'eau... C'est quelque chose d'assez prépondérant dans le titre, parce qu'au bout d'un moment, on va avoir une barque qui va nous permettre d'accéder à une zone semi-ouverte. Et vraiment, je trouve que le rendu de l'eau n'est pas aussi beau qu'on peut, ce qu'on a pu voir dans un Uncharted, ou même, dans Horizon, et c'est un petit peu dommage par rapport à ça, surtout que c'est un élément qui est omniprésent en fait dans le jeu, et c'est un petit peu dommage d'avoir raté ça, mais bon, c'est vraiment un petit détail pour pinailler quoi.
Bon, ah oui, et pour terminer, moi je voulais juste faire un commentaire sur la VF, parce que je crois que mes camarades ici ont joué en VO, juste pour remarquer que apparemment, enfin, parce que vous vous dites, oui, il est très distant, il appelle tout le temps le gamin boy en VO, etc. Moi, ce que j'ai constaté dans la VF, c'est que, enfin, justement, je les trouve beaucoup plus proches en fait, parce que justement, il l'appelle par son prénom, mais sinon, ouais. La VF est très très réussie. Et pour le moment, je trouve que les personnages sonnent juste, et c'est rare dans les VF.
Non mais les personnages en fait ils sont tous très bien doublés. Moi j'ai mis le jeu un peu dans les deux langues pour voir ce que la différence. Dans la version originale en fait très souvent Kratos appelle son fils juste boy, do this, boy, do that. Dans la VF il dit jamais fils ou bien garçon. Enfin il appelle toujours son fils Atreus quoi qu'il arrive. Tu vois et c'est vrai que déjà dans la VF il est pas non plus papa poule hein c'est pas Kratos
ah ouais,
qui
non, il est pas sympa non plus hein ouais, voilà. il est pas cool avec son gamin moi je le dis hein putain
mais dans la version originale c'est juste t'as l'impression qu'en fait Kratos c'est une statue quoi il a pas d'émotion comment il parle à son gosse et enfin pour moi ça met encore plus une barrière entre eux que dans la VF quoi
bah disons que dans la VF on dirait un papa un peu dur. Et dans la VO, c'est... Attends, mais c'est vraiment son père, en fait? Parce que j'ai un doute, là. Voilà.
C'est ça.
Bon, de ce que j'ai compris, hein, vous avez passé un très bon moment, quoi qu'il arrive. Exactement. C'est pas forcément le God of War ultime, hein, ne serait-ce que parce que bah, pour un God of War, bah, les gods, on les cherche. Hein. Voilà. Une suite, si on a une, et je ne doute pas qu'il y en aurait une, hein, n'est-ce pas? Ça serait bien qu'ils mettent un bestiaire plus varié, peut-être un level design un peu plus recherché aussi.
Attends d'avoir vu la fin du jeu pour parler de ça.
D'accord, très bien. Je ne dis plus rien. Allez, on s'arrête là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.
Salut et bon jeu à tous.